Ok, très bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on y va ? C'est parti. C'est vrai que c'est une date un petit peu particulière ce matin, comme Daniel l'a plusieurs fois évoqué là, au début du culte et puis maintenant. Une date particulière dans le calendrier, puisque c'est le dimanche de Pâques. Et c'est un moment assez particulier pour nous souvenir de ce qui s'est passé il y a vraisemblablement 1985 ans. Puisqu'on pense que Jésus a été crucifié et qu'elle a été ressuscitée au cours de l'année 30, au mois d'avril de l'année 30. Il serait mort le 7 avril 30, ça veut dire qu'il serait ressuscité le 9 avril 30. Vous voyez, il y a presque un synchronisme là, 1985 ans après. Et c'est étonnant, il n'y a pas énormément d'événements qu'on célèbre comme ça et qu'on commémore autant de temps après. Et c'est très certainement parce qu'il y a une valeur, il y a une signification tout à fait particulière que nous accordons à cet événement. Quelquefois, on se fait la réflexion, et si tel événement n'avait pas eu lieu, si tel événement n'avait pas eu lieu, les choses auraient certainement été différentes. On se pose la question, mais qu'est-ce qui serait différent dans le présent si tel événement dans le passé n'avait pas eu lieu? Et cette question, on peut se la poser à différents niveaux. On pourrait se la poser au niveau historique. Bon, alors, voilà, ça c'est un domaine que j'aime bien. Mais si tel événement dans l'histoire n'avait pas eu lieu, quel serait l'impact aujourd'hui, dans le présent? Par exemple, vous savez que la Corse a appartenu à la ville italienne de Gênes pendant des siècles, des siècles. Et il se trouve qu'en 1768, la Corse est devenue française. C'était à l'époque de Louis XV. 1768. Vous savez ce qui s'est passé l'année suivante, en 1769? Napoléon Bonaparte est né. Napoléon est né français. Un an avant, il serait né un an ou deux ans ou dix ans avant, il serait né génois. Ça veut dire qu'il aurait fait sa carrière militaire au service de la ville de Gênes, petite ville. Mais parce qu'il est né français, il a fait sa carrière militaire dans l'armée française, une des armées les plus puissantes de l'Europe. Et c'est pour cette raison, parce qu'il est devenu soldat dans l'armée française, qu'il est ensuite devenu empereur, qu'il a mis l'Europe à feu et à sang. Et aujourd'hui, si Napoléon avait été génois, l'Europe n'aurait pas du tout la même configuration qu'elle a aujourd'hui. Si cet événement n'avait pas eu lieu, il y aurait un impact dans le présent. Et il y a comme ça plusieurs réflexions qu'on peut se faire. Ça, c'est la question que je voudrais justement qu'on se pose ensemble. Et si la résurrection n'avait pas eu lieu? Il y a un autre exemple que je voudrais vous donner. Alors, on va se poser la question et on va faire comme si l'histoire était devenue une page blanche. Hop, si la résurrection n'avait pas eu lieu. Il y a un autre exemple que je voudrais vous donner. Regardez ces peintures. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez une idée de la personne qui a fait ces peintures? Allez, je vous donne la parole, vous avez le droit. Monet, c'est pas Monet. C'est ça, c'est la réponse. L'auteur de ces peintures, c'est Adolf Hitler. Ah ouais, hein, ça fait bizarre. Au départ, je voulais que le portrait d'Adolf Hitler apparaisse, mais je me suis rendu compte en relisant mes notes que la prochaine image venait dans 5-10 minutes. Je me suis dit, prêcher 10 minutes avec le portrait d'Hitler derrière moi, un dimanche matin, ça le fait pas. Mais l'auteur de ces peintures, c'est effectivement Adolf Hitler. Il faut savoir que Adolf Hitler, au départ, sa vocation, ce qu'il voulait, c'était devenir artiste peintre. Et à deux reprises, il a postulé pour pouvoir intégrer l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, qui était une académie prestigieuse à l'époque. Deux fois, deux échecs. Et vous savez pourquoi il a été recalé? Parce qu'il n'était pas assez discipliné, parce qu'il n'était pas assez travailleur. Le problème, c'est que comme sa vocation artistique a été déçue, il est rentré dans l'armée et après il a fait de la politique. Et après, vous savez ce qui s'est passé. Et on a envie de dire, mais Adolphe, t'aurais dû bosser un peu plus quand même. Ça aurait été bien si tu t'étais appliqué, si t'étais devenu un artiste. T'aurais quand même exprimé ta sensibilité d'une autre manière. Enfin bon, en même temps, c'est pas des chefs-d'œuvre. Hein. Je pense qu'en tant qu'artiste, il n'aurait pas fait fureur non plus. Il y a plein de questions qu'on pourrait se poser comme ça. Et si le débarquement en 1944 n'avait pas réussi? Si les Américains avaient échoué, il faut se souvenir que le jour du débarquement, le 6 juin 1944, il y avait la tempête. Il aurait pu y avoir un véritable retournement de situation. Si le débarquement n'avait pas eu lieu, l'Allemagne nazie aurait continué de dominer l'Europe beaucoup plus longtemps, au-delà de 1945. Ce serait peut-être l'Union soviétique qui aurait libéré, entre guillemets, l'Europe, et puis toute l'Europe serait devenue communiste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, il y a des tas de questions comme ça. On dit, et si cet événement n'avait pas lieu ? Ça a un impact au niveau historique, mais ça a aussi un impact au niveau personnel. Et si je n'avais pas accepté ce travail, je ne serais certainement pas dans cette ville. Je n'aurais pas évolué et je n'aurais pas le poste que j'ai aujourd'hui. C'est une question qu'on peut avoir. Ou si je n'avais pas refusé ce poste, je serais dans une autre ville et ma destinée aurait été complètement différente. J'ai déjà raconté cette histoire, je ne sais pas combien de fois, mais je vous la redis à nouveau, parce qu'en plus, il y a des personnes nouvelles qui nous ont rejoints ce matin. Mais il y a quelques années, j'étais à la recherche d'un emploi, parce que j'étais que vacataire dans l'enseignement, et il y a un poste de prof d'histoire géo qui s'est présenté en Bretagne. J'ai fait l'entretien avec le directeur de l'établissement, et il était OK pour que je devienne prof dans son établissement. Donc il fallait que je déménage, que j'emmène ma famille, que mes enfants changent d'école, et que mon épouse Sandrine change de travail, qu'elle laisse son travail. Et puis, à l'issue de cet entretien, j'ai réfléchi, j'ai prié, et puis je n'avais pas la paix. Je ne me sentais pas vraiment à prendre cette direction. Et une semaine après, j'ai recontacté le directeur pour lui dire « Bah non, le poste ne m'intéresse pas, je ne vais pas venir en Bretagne. » Pourtant, au niveau financier, ça nous aurait fait du bien. Et bien m'en a pris, puisque j'ai appris que ça c'était en septembre, et j'ai appris qu'en décembre, cet établissement faisait faillite et mettait la clé sous la porte. Et c'est ça qui m'a permis, 6 mois plus tard, d'entrer dans le ministère. Ça s'est joué à 6 mois. Et si je n'avais pas refusé ce poste, ma destinée aurait été complètement différente. Sans doute, ça aurait différé mon entrée dans le ministère, ou peut-être pas. Et puis, ce n'est pas moi qui prêcherai ce matin devant vous. Ça aurait été complètement différent. J'ai eu peur que quelqu'un dise amen à ce moment-là. OK. Il y en a certains qui cultivent la maîtrise de soi, je ne sais pas, mais très bien. Soyez bénis. Et si je ne m'étais pas marié avec la personne avec qui je suis, la vie aurait aussi été très différente. Je me souviens, il y a quelques années aussi en arrière, oui, il y a longtemps même, de ce rendez-vous que j'ai pris avec le directeur du lycée dans lequel j'étais. Et je m'interrogeais sur qu'est-ce que je devais faire après. Et le directeur du lycée, c'était aussi mon prof d'histoire. Il m'a dit, écoute... moi, ma fille, elle fait des études d'histoire et je l'ai inscrite dans une bonne fac à l'Université catholique d'Angers. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre cette voie-là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que je suis venu à Angers et c'est pour ça que j'ai rencontré Sandrine. C'est pour ça que je me suis marié avec Sandrine. Et c'est pour ça que j'ai les enfants que j'ai aujourd'hui. Et c'est super, vraiment, c'est super. Mais si je n'avais pas suivi le conseil du directeur de l'établissement, ça aurait été complètement différent. Et si mes parents s'étaient pas rencontrés, si mes parents s'étaient pas rencontrés un soir de réveillon, s'ils avaient fait leur vie chacun de leur côté, je serais pas qui je suis. Je serais même pas du tout, en fait. J'existerais pas. Ce serait dommage, hein. Vous voyez, il y a plein de questions comme ça qui peuvent avoir un impact tant au niveau historique, au niveau très large, qu'au niveau, au niveau personnel. Il y a une question, cette question que je veux me poser avec vous, c'est par rapport à la résurrection. Quelles seraient les conséquences ? Quel serait l'impact dans le présent si la résurrection n'avait pas eu lieu ? Une fois, lorsque j'étais prof en histoire à la fac, je donnais un cours d'histoire romaine. Et dans le cadre de ce cours d'histoire romaine, on abordait la question des religions, les différentes religions qui existaient dans l'Empire romain au début de notre ère. Et bien évidemment, j'ai évoqué le christianisme, puisque le christianisme apparaît au moment où l'Empire romain dominait le monde méditerranéen. Et j'expliquais que ce qui était à la base de la foi chrétienne, c'était la foi dans la résurrection. Et à la fin du cours, il y a une étudiante qui est venue me voir, avec deux autres, et qui a dit, mais monsieur, la résurrection, un mort qui retourne à la vie, c'est un symbole. Ça, c'est pas la réalité historique. Ce à quoi j'ai répondu, mais vous savez, ceux qui ont proclamé l'évangile, pour eux, la résurrection, ce n'était pas un symbole. C'était une réalité, c'était une vérité. Et c'est certainement ce qui explique pourquoi la foi chrétienne s'est diffusée aussi rapidement les années et les siècles qui ont, qui ont suivi. Mais c'est, voilà, est-ce que la résurrection, ce ne serait pas plutôt de l'ordre du symbole ? Ça, c'est une idée qui est apparue, on va dire, au XIXe siècle, là, de la part des historiens ou des exégètes qui ont adopté une démarche rationnelle pour pouvoir expliquer la Bible. Mais pendant des siècles et des siècles, les chrétiens ont cru que la résurrection était un événement. Je me souviens aussi d'une fois, lors de mes recherches, j'étais à la bibliothèque, de la Cato, et puis je tombe sur un livre qui parlait de la résurrection. Son auteur était protestant. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de voir un peu ce qu'il dit sur la résurrection. Et l'auteur défendait l'idée que la résurrection, c'était l'expression du souvenir vivace de Jésus chez les disciples. Ils ont tellement aimé ce que Jésus a enseigné. Ils ont tellement apprécié le comportement, l'enseignement de Jésus, que c'est ça qui les a motivés, une fois qu'il est mort, pour pouvoir être les porteurs de son message et pour pouvoir perpétuer son souvenir. Et cet auteur disait qu'en fait, Jésus était vivant dans le cœur des disciples et c'est ça qui les a motivés à annoncer l'Évangile. Wow, je l'ai refermé assez vite, en fait, ce bouquin. Mais c'est voilà le genre d'explication qu'on peut donner. J'imagine, si vous suivez l'actualité, que vous êtes au courant de ce qui s'est passé en Argentine au début du mois de mars. Ce tragique accident d'hélicoptère qui a entraîné la mort de 10 personnes à l'occasion du tournage d'une émission de télé-réalité dans laquelle étaient impliqués des sportifs. Et parmi les victimes, il y avait la nageuse Camille Muffa, dont on va voir la photo. Camille Muffa, qui a un palmarès extraordinaire. C'est une nageuse championne de France, championne d'Europe, championne du monde. 3 médailles aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Il n'y a que 3 nageuses qui ont fait ça dans toute l'histoire des Jeux Olympiques. Elle était parmi les victimes. Elle a remporté de grandes victoires, elle était très appréciée et son décès a entraîné une grande émotion dans le monde du sport, notamment parmi les gens qui se livrent à la natation. J'ai entendu un de ses co-sportifs, Yannick Agnel, qui d'ailleurs s'est entraîné de nombreuses années aux côtés de Camille Muffa. Et il disait, la veille du championnat de France de natation qui s'est déroulé cette semaine, il disait, je le cite, « Il faut nager en se servant de Camille comme d'une force. » Il faut nager en se servant de Camille comme d'une force. Croire en Jésus ou croire en Camille Muffa, finalement, ce serait la même chose. Ça reviendrait au même. Quelque chose qui n'est pas logique. Placer sa foi en Camille Muffa ou placer sa foi en Jésus, parce que là, le souvenir serait fort, le souvenir serait vivant, on aurait envie d'être digne d'eux. Est-ce que ce serait exactement la même chose ? Ça cloche, hein ? Si la résurrection n'avait pas eu lieu, il y aurait un impact au niveau historique. Le monde tel que nous le connaissons serait très différent. Il y a beaucoup d'aspects dans la culture occidentale et donc dans notre culture française qui sont le résultat de la foi chrétienne. Parce que notre civilisation, notre culture a été influencée pendant des siècles et des siècles par la foi chrétienne. Si la résurrection n'avait pas eu lieu, par exemple, il n'y aurait pas d'hôpitaux. On efface. Pas d'hôpitaux. Pourquoi ? Parce que l'hôpital est une invention chrétienne. À l'origine, c'était des lieux d'accueil pour accueillir les malades et les accompagner jusque dans leurs derniers instants. Ça n'existait pas dans l'Antiquité. C'est vraiment une démarche de foi chrétienne, de se pencher justement pour accompagner ceux qui sont dans la souffrance, que de créer des structures qui étaient destinées à accueillir les malades et plus particulièrement les mourants. On appelait ça ces lieux des hospices ou des hôtels-dieux. Et d'ailleurs, vous savez peut-être qu'à Angers, l'hôpital Saint-Jean, qui est aujourd'hui là, le musée Jean Lursa, c'est un hôpital qui a été mis en place au XIIe siècle. Et c'est ce souci d'accompagner les mourants, d'être à leur côté, qui a évolué vers le souci de les soigner. Donc vous voyez comment la foi chrétienne a présidé au développement de la médecine. Et ça, c'est dans le monde occidental, c'est dans le monde influencé par la foi chrétienne. Donc, pas de résurrection, pas d'hôpital. Pas de résurrection, pas d'orphelinat. On efface l'orphelinat. C'était des lieux pour accueillir les orphelins et les enfants abandonnés. Et la création des orphelinats est inspirée par le souci de venir en aide aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus démunis, à ceux qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils se retrouvent seuls. L'orphelinat est le fruit d'une réflexion et d'un sentiment chrétien. Pas d'orphelinat. Pas d'école non plus. Les enfants seraient là, ils diraient « Amen » là, je crois. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Très bien, super. Vous êtes bons en histoire aussi. Charlemagne n'a pas inventé l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais le souci de Charlemagne, c'était de faire en sorte de communiquer une instruction aux membres de l'aristocratie, à la noblesse. Pourquoi ? Parce que c'était parmi les nobles que se recrutaient toutes les personnes qui étaient appelées à exercer des responsabilités, et notamment les évêques, les prêtres, tous ceux qui devaient communiquer la parole. Et ils voulaient que les personnes qui auraient cette responsabilité sachent lire la Bible. C'est vous dire, ça existait à l'époque, mais il y avait des prêtres qui ne connaissaient pas la Bible, qui ne pouvaient pas lire la Bible parce qu'ils ne savaient pas lire. Alors Charlemagne a pris des dispositions pour donner une instruction qui permettrait une bonne communication de la parole, une communication là, du contenu de la Bible. Et puis petit à petit, ça s'est élargi, et pendant des siècles et des siècles, ce sont les écoles paroissiales dont s'occupait le prêtre ou le pasteur dans les régions où la réforme a pénétré. Ce sont les écoles paroissiales qui ont assuré l'instruction des enfants. Pas d'école, mais pas non plus d'université. L'université est une invention chrétienne. Elles ont été inventées au XIIe siècle. La Sorbonne, Oxford, Montpellier, première grande université. Et vous savez que la première discipline enseignée dans les universités, c'était la théologie. Et après sont venues s'ajouter toutes les autres disciplines, les arts, la médecine, le droit. Mais c'est sous les auspices des autorités religieuses que les universités sont apparues en Europe. Vous voyez qu'il y a un impact historique. Si la résurrection n'a pas eu lieu, l'histoire serait à réécrire. Il y aurait une page blanche sur laquelle il faudrait que les choses soient racontées différemment. Et puis il y a un impact aussi au niveau personnel. C'est ce que l'apôtre Paul dit lui-même. En 1 Corinthiens 15, au verset 14, il dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine », pourrait traduire par « vide ». Et votre foi aussi est vaine, elle est vide. J'aime bien aussi la traduction de la Bible en français courante. Elle prend un peu de distance par rapport au texte grec, au texte original, mais elle exprime bien les choses. « Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. » Vide. L'apôtre Paul utilise plusieurs fois cette expression que Jésus est mort pour nos péchés. Il l'utilise plusieurs fois et ça fait entendre que la mort de Jésus a valeur de sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nos péchés ne puissent plus avoir de conséquences sur nous. Et quand il dit que Jésus est mort pour nos péchés, il fait allusion indirectement à la pratique d'offrir en sacrifice des animaux au temple de Jérusalem. C'est comme ça que les Juifs obtenaient le pardon de leurs péchés. L'animal qui était offert en sacrifice mourait pour les péchés de celui qui l'offrait. Et la principale conséquence du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Qu'est-ce qui fait que nous sommes destinés à la mort ? C'est parce que nous sommes pécheurs. C'est rivé à notre nature. Et Paul dit que Jésus porte notre péché et il meurt à notre place pour que nous ne puissions plus mourir, pour que ce soit terminé. Et qu'est-ce qui démontre que le sacrifice de Jésus a été accepté par Dieu et que nos péchés ne vont plus entraîner la mort ? Qu'est-ce qui le démontre ? La résurrection. C'est la résurrection. Si la résurrection de Jésus n'a pas eu lieu, Jésus n'a pas eu la puissance pour sauver. C'est ce que Paul dit lui-même un peu plus loin en versets 17 et 18. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine ou elle est vide. Vous êtes encore dans vos péchés. Vous ne pouvez pas obtenir le pardon de vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Jésus n'a pas sauvé. Si la résurrection n'a pas vraiment eu lieu, on efface. Pas de pardon des péchés. Je reste dans mon péché. Je reste dans mon péché. Jésus a parlé, Jésus a enseigné. Il a dit des choses magnifiques, il a partagé des paroles d'espoir. Mais si la résurrection qui atteste que la mort de Jésus à valeur de sacrifice n'a pas eu lieu, je n'ai pas le pardon de nos péchés. Nous n'avons pas le pardon de nos péchés. La grâce de Dieu ne s'est pas manifestée, donc on n'est pas au bénéfice de la grâce de Dieu. Elle ne s'est pas manifestée puisque Dieu n'a pas approuvé le sacrifice de Jésus s'il ne l'a pas ressuscité. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, il n'était pas forcément d'accord. Et quand il a annoncé sa résurrection, il aurait fait preuve de présomption. Il n'y a pas de relation possible avec Dieu si la résurrection n'a pas eu lieu. Je reste dans mon péché, je reste impur. Je ne peux pas communiquer avec Dieu qui est pur et qui n'accepte pas le péché. Si je ne peux pas avoir cette relation avec Dieu, le salut n'a pas lieu. Le salut n'existe pas, le salut n'est pas réel. Si la résurrection n'a pas eu lieu, Je n'ai pas possibilité de me réunir avec ceux que j'aime. Je n'ai pas possibilité de retrouver ceux avec qui j'ai servi le Seigneur, avec qui j'ai servi dans l'Église. Je n'ai pas possibilité de me réunir. Et là, la séparation avec les personnes que j'ai aimées, les personnes avec qui j'ai servi, elle est définitive. Il n'y a pas de guérison non plus. On efface la guérison. Parce que la maladie est un effet de notre séparation avec Dieu. Et la guérison, c'est un signe de salut. C'est ce que dit Jésus. Alors, la guérison n'est pas possible parce que la Bible nous dit que Jésus est mort à la croix pour porter nos maladies également. Je n'ai pas de liberté non plus. Terminé, aucune liberté. On reste prisonnier de nos fautes, on reste prisonnier de nos mauvaises habitudes, on reste prisonnier de nos pensées, de tout ce qui nous détermine, de nos addictions, de notre passé, de tous ces souvenirs-là qui nous collent aux chevilles, qui nous prennent par les jambes et qui nous empêchent quelquefois d'avancer. En réalité, si la résurrection n'a pas eu lieu, j'ai absolument plus aucun espoir. Si tout cela n'existe pas, c'est aussi susceptible d'agir sur le sens que nous donnons à notre vie, les uns et les autres, et même à nos motivations. Versets 30 et 32 du même chapitre, Paul dit « Et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à tout moment au danger ?» Il évoque son ministère. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que Paul, il a souvent rencontré des difficultés et de l'opposition dans son ministère. « Frère, chaque jour, je risque la mort. C'est vrai. Aussi vrai que je suis fier de vous dans la communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. À quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse, si c'était pour des motifs purement humains? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme on le dit, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Paul dit, mais si la résurrection n'a pas eu lieu, à quoi ça sert de servir? Pourquoi est-ce que je dois me donner tout ce mal? Pourquoi est-ce que je dois affronter l'incompréhension? Pourquoi est-ce que je prends le risque là de me faire lapider, de rencontrer les bêtes sauvages, comme il le dit d'une manière imagée? Pourquoi est-ce que j'affronterai la moquerie? Et la question, on peut se la poser, bien entendu. À quoi ça sert de partager l'Évangile si ceux auxquels je m'adresse ne seront pas sauvés de leurs péchés? C'est pour leur communiquer quoi? Une morale? Une religion? Des choses à faire? Des choses à ne pas faire? Pourquoi me donner tant de mal si Jésus n'est pas ressuscité et qu'on ne ressuscite pas? Eh bien, la conclusion, elle est tirée par Paul lui-même. Autant profiter de la vie comme je l'entends. Mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Il n'y a pas de différence entre être croyant ou être incroyant. Il n'y a pas de différence finalement entre avoir la foi et ne pas avoir la foi. L'énergie que chacun emploie, le croyant et le non-croyant, il est employé de la même manière. Rechercher la satisfaction dans ce qui est passager et temporaire. Quand on a faim, on mange. Mais le problème, c'est qu'il faut recommencer à chaque fois, plusieurs fois par jour et chaque jour. Quand on a soif, on boit, mais le problème est le même. Ça veut dire que ma satisfaction est toujours passagère. Et je suis obligé de compenser par des satisfactions passagères, vous voyez, par des aliments passagers, pardon. C'est ça, rechercher la satisfaction dans ce qui est passager et temporaire. La fête, le sport, le cinéma, le sexe, l'alcool, les études, le travail, la famille, les amis. Tout ce qui va nous apporter cette satisfaction, mais qui reste passager. Si la résurrection n'a pas vraiment eu lieu, ma vie en tant que chrétien n'a pas vraiment de sens. Terminé. Nous qui sommes réunis ici, qui sommes à l'écoute de la parole, pourquoi? Notre vie ne serait pas différente de celle des personnes qui n'ont pas d'espérance, des personnes qui n'ont pas la foi. Il n'y a pas de réelle motivation non plus pour le service. À quoi bon? Pourquoi me donner tant de mal? Puisque au final, il n'y a pas de résurrection. Si je vis pour des motifs purement humains, comme dit Paul, eh bien à ce moment-là, ma vie n'a pas de but. Si je vis seulement pour boire et pour manger, eh bien je n'aurai pas non plus de réelle satisfaction. Il faudra toujours recommencer. Et mon épanouissement sera dépendant de ma possibilité à assouvir mes besoins et mes envies. Ouais, ça fait silence, hein. C'est clair que si la résurrection n'avait pas eu lieu, les conséquences seraient clairement négatives. Être chrétien sans croire à la résurrection, il n'y a pas d'intérêt, aucun intérêt. Qu'est-ce qui nous reste si on n'a pas la résurrection? Il nous reste quoi? Il nous reste la religion? Il nous reste la morale? Bon, voilà, c'est bien ce que dit la Bible. On va essayer d'être les meilleurs possibles en appliquant ce que dit la Bible. Il nous reste quoi? Un christianisme culturel? Il nous reste des habitudes? C'est vide, c'est vain. ça n'a aucune portée réelle dans notre cœur et dans notre existence. On doit se débrouiller tout seul pendant toute la durée de cette vie et chercher notre satisfaction comme on le peut. Mais heureusement, et c'est bien sûr ça que je veux partager avec vous ce matin, heureusement, nous avons de bonnes raisons de croire que la résurrection a bien eu lieu. C'est ce que Paul dit lui-même. Regardez, ça c'est fort, ça c'est puissant. 1 Corinthiens, verset 3. Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens. Il les a évangélisés, il a partagé l'évangile avec eux quelques années auparavant. Il leur écrit cette lettre et il leur rappelle « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, on l'a mis au tombeau, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà ce que Paul avait partagé et avait proclamé à Corinthe. Et ça avait entraîné la conversion de nombreux Corinthiens. Mais quand on lit ça, on se dit « Jésus est mort pour nos péchés ». Ok, ça tu peux toujours le dire. Jésus a été enseveli, mais il est ressuscité. Mais ça aussi, tu peux toujours le dire. Mais qu'est-ce qui peut me conduire à croire que la résurrection a vraiment eu lieu? Qu'est-ce qui peut me conduire à croire que la résurrection est un fait réel? Eh bien, c'est que des gens ont vu Jésus ressuscité. Et immédiatement après, c'est là-dessus que Paul enchaîne. Et qu'il est apparu à Céphas, il s'agit de l'apôtre Pierre, puis aux 12, les 12 disciples qui ont suivi Jésus. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, le frère du Seigneur, le frère de Jésus, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Voilà ce qui nous permet de croire que la résurrection a vraiment eu lieu. Il y a des témoins. Cet événement ne repose pas sur un seul témoignage, mais sur plus de 500 personnes que Paul est en train de dire « Quelques-uns sont morts, mais d'autres sont vivants. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais si vous avez la possibilité de les voir, allez-y. Vous imaginez, si la résurrection n'avait pas eu lieu, le risque que Paul prendrait, il serait pas crédible. Je dis, ok, je vais aller voir. Moi, dis-moi qui c'est qui a vu Jésus ressuscité, je vais aller voir. Puis si le gars, au bout du compte, il dit, non, je l'ai pas vu. Non. Paul, s'il dit ça, c'est qu'il vous dit, vous avez la possibilité d'interroger et d'aller voir ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Cette lettre a été écrite 25 ans après la résurrection de Jésus. Il y a même pas une génération qui s'est passée. Donc, on est vraiment dans un témoignage sérieux. Alors, on peut se dire, mais ceux qui disent que Jésus est ressuscité, ceux qui disent qu'ils l'ont vu, ça, ce sont ses partisans, ce sont ceux qui étaient acquis, ce sont ceux-là qui croyaient déjà en Jésus. Et forcément, ils ont prétendu voir Jésus et qu'il était ressuscité. Mais dans la liste que Paul dresse, il n'y a pas que des partisans de Jésus. Jacques, le frère de Jésus, ne croyait pas en Jésus. Et très vraisemblablement, c'est au moment de sa résurrection qu'il est devenu croyant. Pendant que Jésus exerçait son ministère, il s'opposait à Jésus. Et puis, on le trouve dans la liste de ceux qui ont vu Jésus. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui était disposé à proclamer que Jésus était ressuscité. Et puis, il y a Paul lui-même qui était un persécuteur. Il était zélé dans la persécution, là, contre l'Église. Il n'était pas croyant. Et il dit, Jésus m'est apparu. Je suis aussi un témoin de la résurrection de Jésus. Alors, ça change tout. Parce que là, on a une attestation historique que la résurrection a eu lieu. Et ça change tout, parce que si la résurrection a eu lieu, on peut écrire l'histoire de la manière suivante. Ça veut dire que nous avons le pardon de nos péchés. Ça veut dire que lorsque Jésus est mort à la croix, ce sacrifice a été accompli pour que je sois pardonné de mes fautes, du mal que j'ai fait. Ça veut dire que le sacrifice de Jésus a été accepté, il a été agréé. Ça veut dire que Dieu a dit, tu as apporté ton enseignement, tu es allé jusqu'à la mort de la croix pour porter là le fardeau de l'humanité, pour porter le péché de chacun. Tu acceptes de mourir alors que tu n'aurais pas dû mourir, toi qui étais parfait. Mais tu le fais quand même et j'accepte ce sacrifice. Et à partir du moment où Dieu accepte le sacrifice de Jésus et que nous croyons en Jésus comme notre sauveur, ça signifie que nous sommes pardonnés de nos péchés. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Ça veut dire que nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Dieu fait le choix souverain de me pardonner. Ça veut dire que j'ai le salut et que le salut, c'est pas un concept, c'est une réalité. Dieu m'accepte dans sa présence. Il ne voit plus mon péché, mais je peux venir vers lui. Dieu peut se révéler à moi et j'ai la possibilité d'avoir une relation avec Dieu.
J'ai un libre accès à lui. Là, je peux me confier. Je peux lui parler. Je peux lui demander d'intervenir dans mon existence. Je peux lui apporter ma louange, mon adoration. Je peux être renouvelé dans sa présence parce que j'ai la possibilité de cette relation. Le péché l'empêchait. Mais maintenant, j'ai la liberté pleine et entière d'entrer dans sa présence. Au verset 22 et 23, Paul dit « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, Christ d'abord, on va dire, en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » La résurrection de Jésus annonce notre propre résurrection. Si Jésus est ressuscité, ça veut dire que son message est vrai. Il avait annoncé cette résurrection et là, il a été validé par Dieu. Si la résurrection de Jésus a eu lieu, ça veut dire qu'un jour, lors de son avènement, notre résurrection aura lieu. C'est notre espérance, c'est ce que nous croyons. La foi chrétienne, ce n'est pas qu'une question de morale. La foi chrétienne, ce n'est pas « je fais pas, j'accepte, j'accepte pas », ce n'est pas ça. Non, la foi chrétienne, c'est une question de vie. Lorsque Jésus est ressuscité, la vie a été plus forte que la mort. Et cette vie qui s'est manifestée, c'est celle que nous sommes appelés à recevoir. C'est celle que nous sommes appelés à vivre chaque jour. C'est celle dans laquelle nous sommes appelés à nous renouveler. C'est cette vie que nous sommes appelés à recevoir pour être restaurés, pour être fortifiés. Paul dit aussi que si nous sommes, enfin du moins là, au travers de ces versets, il nous est dit que nous pouvons avoir la vie éternelle. Si nous ressuscitons, ce n'est pas pour mourir une deuxième fois. On ne ressuscite pas pour mourir à nouveau. La résurrection de Jésus prouve que la vie que je reçois va durer éternellement. Jésus, lui, ça y est, il est parti pour la vie éternelle. Il va vivre éternellement. Et ça veut dire que moi, quand je vais ressusciter, j'aurai la même vie que Jésus. Donc ça veut dire que j'ai la vie éternelle. On peut mettre ça sur l'histoire, notre histoire personnelle. Il y a un impact. J'ai la vie éternelle. Ça veut dire aussi que j'ai la possibilité de revoir ceux qui m'ont été chers, ceux qui ont partagé ma foi. La mort n'impose pas une séparation définitive. Je peux être réuni à ceux-là que j'ai connus. Je suis libre si la résurrection a lieu, parce que ça veut dire que la culpabilité n'est pas une fatalité. J'ai conscience peut-être que dans ma vie, il y a eu des choses qui n'étaient pas convenables, qui n'étaient pas correctes. J'ai vécu indépendamment de la volonté de Dieu. Et là, maintenant, je le regrette, c'est là, mais c'est présent, mais je peux être libéré de ma culpabilité parce que je reçois cette vie. La culpabilité n'est pas une fatalité, mais les mauvaises habitudes que j'ai pu prendre ne sont pas des fatalités. Mes conceptions fausses sur Dieu ne sont pas des fatalités. La rancune qu'il y a dans mon cœur n'est pas une fatalité. Le sentiment de rejet que je peux ressentir n'est pas une fatalité. Là, parce que je suis libre grâce à la résurrection. Si la résurrection a lieu, je peux espérer la guérison. La vie que je reçois peut avoir un impact dans mon esprit, comme nous voulons le dire, pour nous libérer de ce qui nous lie à l'intérieur de nous-mêmes. Mais la résurrection peut avoir un impact dans mon corps aussi et rétablir ce qui est brisé, autant à l'intérieur de moi-même que dans mon corps. Et c'est pour ça qu'on a prié à l'instant. Et puis, si la résurrection a lieu, je retrouve l'espérance, je retrouve l'espoir. Ça fait partie des choses à inscrire là sur le livre de ma vie, l'espoir. L'espoir que Dieu peut intervenir à un moment donné dans ma vie, dans mon existence, alors que je suis dans des circonstances dont j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir m'en sortir, parce que j'ai ce libre accès à Dieu, je peux lui remettre cette situation et je peux espérer qu'il vienne, je peux espérer qu'il puisse agir. Et l'espoir qu'un jour, je serai définitivement libéré de tout ce qui nous oppresse lorsque je serai auprès de Dieu, lorsque je serai ressuscité et que je partagerai son éternité. Verset 10, Paul écrit encore « Par la grâce de Dieu ». Je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il veut dire plus que tous ceux que je viens de citer. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Pas de résurrection, pas de but, pas de motivation. Paul était un persécuteur. Et après sa conversion, après que Jésus ressuscité lui soit apparu, il est devenu un chrétien zélé, désireux de vivre comme Dieu le veut et désireux de partager l'évangile. Et il était prêt à prendre n'importe quel risque pour pouvoir atteindre ce but. Toute l'énergie qu'il mettait à combattre la foi chrétienne, il l'utilise désormais pour répandre la foi, pour partager le message de l'évangile. Paul a pris pleinement conscience de ce que nous appelons maintenant son identité en Christ. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dieu m'a touché, Dieu m'a transformé, Dieu m'a bouleversé et Dieu a mis en moi quelque chose de nouveau. Je veux prendre conscience de qui je suis. Et si nous prenons conscience de ça, ça veut dire que le sens que nous donnons à notre vie, et on voit que Paul, c'est vraiment ça, ne dépend pas de ce que nous faisons, mais essentiellement de ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des personnes sauvées, nous sommes libres du péché. Ça redonne un sens à la vie. On inscrit ça sur la page de notre vie, on retrouve, on a un sens. Sens, j'existe pour quelqu'un. Ma vie n'est pas le fruit du hasard. Je ne suis pas venu comme ça, comme étant un accident de l'histoire du monde, du cosmos, j'en sais rien. Non, 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 ma vie a un but. Dieu m'a désiré, Dieu m'a voulu. J'ai un sens à ma vie. Il y a un but à ma vie, à inscrire aussi. Un but à ma vie. Je suis animé par le désir d'accomplir la volonté de Dieu dans chaque aspect de ma vie. Voilà quel est mon but. Être à l'écoute de la parole de Dieu. Être à l'écoute de ce qu'il veut me révéler. Être à l'écoute de ce qu'il veut m'indiquer. De manière à pouvoir le vivre pleinement parce que je sais que ce qu'il me dit, ce qu'il me donne, c'est bon pour moi. Sa volonté est parfaite. Et en l'accomplissant, je serai heureux. J'existe pour accomplir quelque chose. Le Seigneur me donne quelque chose à faire. J'ai un service dans lequel rentrer aussi. On retrouve et on a la motivation. Si la résurrection a eu lieu, on est motivé. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les autres qui ont annoncé l'évangile. Alors, Paul n'est pas dans la compétition, il n'est pas en train de se comparer en disant, c'est moi le meilleur. Il n'avait rien à prouver, on vient de le voir. Mais il veut dire qu'il a envie de servir. Il veut dire qu'il a envie de s'impliquer. Là, j'y vais, je travaille parce que j'ai une telle passion pour Christ, un tel amour pour lui. C'est tellement merveilleux ce qu'il a fait. Il m'a changé. J'ai plus du tout la même vie. Alors moi, je veux le servir, je veux y aller et je porte du fruit en raison de cette motivation. Il le fait non par devoir, il ne le fait pas par obligation, il le fait par envie, il le fait par amour. Et puis, nous trouvons la satisfaction suprême si la résurrection a eu lieu. Parce que c'est en Dieu que je trouve un plein épanouissement. C'est tellement bon de pouvoir vivre dès à présent ce que Dieu nous promet par l'éternité. On a chanté, on l'a loué, on a élevé nos mains, on a élevé nos voix, on l'a adoré. Et c'est ce que nous ferons quand nous serons à ses côtés, lorsqu'on sera devant lui, devant le trône, comme nous dit l'Apocalypse. Et on sera là pour chanter, pour louer, et on exprimera toute notre reconnaissance. Et là, la satisfaction sera suprême. Eh bien, mes amis, nous avons la possibilité de vivre là, dès à présent, peut-être partiellement encore, mais on peut vivre cette satisfaction en étant connecté avec Dieu de cette manière-là. Pâques, c'est bien plus qu'une date dans un calendrier. C'est bien plus qu'une commémoration. La résurrection, c'est la fondation de la foi chrétienne. La fondation, tout part de là. Elle est un fait historique. Et c'est la preuve que le salut est vraiment accompli. Si Jésus est vivant, je peux me confier en lui. Si Jésus est vivant, je peux avoir une relation avec lui. Je peux le rencontrer, comme Paul. Paul, c'est ce qu'il dit, je l'ai rencontré, Jésus. J'ai vécu quelque chose avec lui parce qu'il est ressuscité, parce que la vie est réelle. La résurrection rend réelle ma foi et mon espérance. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis d'origine normande. C'est une info peut-être que vous n'aviez pas encore. Or, la Normandie est une terre qui est vraiment riche d'histoire. Il y a des événements très importants qui sont passés là-bas. Et tout à l'heure, on parlait du débarquement qui a eu lieu en 1944, organisé par les Américains. Et c'est ce qui fait que l'Europe a été libérée de la tyrannie des nazis. Ça, vous le savez, les uns et les autres, vous l'avez appris à l'école. Et si vous aimez vous instruire, lire, vous pouvez le lire dans des livres. Il y a des quantités de bouquins qui ont été écrits sur le débarquement. Peut-être que si vous avez eu l'occasion de découvrir cette magnifique région de France et que vous êtes allé vous promener là-bas, vous êtes allé au cimetière américain de Colville. On a toutes ces croix blanches, c'est impressionnant. Hein, ça permet de mesurer la portée du sacrifice de toute une génération d'Américains pour la libération de la France et de l'Europe. L'année dernière, en 2014, on a beaucoup parlé du débarquement. On était en boucle, en direct, hein, dans la période du 6 juin. Et il y avait toutes les télévisions du monde qui étaient là et qui étaient sur place. Et puis des hommes d'État qui célébraient là le débarquement de 1944. Et il y a une chose que j'aimais en particulier quand j'étais enfant, c'était d'entendre les membres de ma famille qui avaient vécu cet événement. Mon grand-père, par exemple, qui avait... Ouais, je suis assez fier de ça, mais il avait quand même, il avait volé aux Allemands le plan d'un champ de mine, justement, qui était disposé sur pas loin des plages du débarquement. Donc, je pense que quand même, si on a gagné la guerre, c'est grâce à mon grand-père. Hein, je voudrais pas dire, mais j'aimais vraiment entendre quand il racontait ce genre d'histoire, la confrontation avec l'occupant, c'est ce genre de choses. Et je me souviens aussi de ma tante, la sœur aînée de ma mère, de maman. Elle disait, on est allé quelques jours après le débarquement, on est allé sur la plage, là où les soldats avaient débarqué, et la mer était rouge. La mer était rouge, du sang des soldats qui étaient venus et qui s'étaient fait tuer sur ces plages-là. Vous le lisez dans un livre, mais quand vous l'entendez de la part de quelqu'un qui l'a vu de ses yeux, ça prend tout de suite une autre dimension. J'étais en prise directe avec les personnes qui avaient vécu le débarquement, avec les personnes qui avaient vu là, les effets de ce débarquement. Ben, vous savez, la résurrection, elle prend tout son sens quand on est en prise directe avec celui qui l'a vécu, avec Jésus lui-même. La résurrection, elle prend tout son sens lorsque je suis en relation avec celui qui a acquis pour moi le pardon de mes péchés, avec celui qui a acquis pour moi la guérison de mes maladies, avec celui qui a acquis pour moi un sens à ma vie, avec celui qui peut me communiquer un réel but et de réelles motivations. Et si nous faisons cette expérience au travers de la relation que nous établissons avec Christ, nous pouvons leur dire ce que les disciples d'Emmaüs disaient quand ils sont retournés à Jérusalem. Et là, ils ont retrouvé les disciples réunis après la résurrection. Et de quoi ils parlaient ? Lorsqu'ils arrivent, ils voient les disciples annoncer et ils disaient « Le Seigneur est réellement ressuscité. » C'est une réalité, c'est une vérité, c'est pas un concept, c'est pas un symbole, c'est pas une image, c'est pas une illustration, c'est la réalité. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon comme il était apparu à Paul. Et c'est cette expérience spirituelle que les uns et les autres nous sommes appelés à faire. On va prier ensemble. J'ai demandé à Valérie et aux musiciens si vous voulez bien revenir. On va reprendre ce dernier chant qu'on a chanté ensemble. Je voudrais vraiment qu'on puisse, à l'occasion de ce dimanche, se connecter à la puissance de la résurrection. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui doutent du pardon de leurs péchés. Des personnes qui ont fait tout ce qu'ils ont pu. Un peu comme le disait le don spirituel tout à l'heure.